2-1. À tous, un excellent mardi. On est le 17 mai, il est 7h36. Denis Gravel qui va être des nôtres pour le Pit Stop à partir de 7h55. On va parler de plein de sujets d'actualité qui font la manchette aujourd'hui. Max est là, Jeff est là, notre expert en politique internationale est en studio aussi, David Chabot qui vient d'arriver. Tout va bien. C'est la fête à Max aujourd'hui, donc Max est heureux. Il a eu son party de fête vendredi,
oui.
Plein d'amour. Il a eu des colleux de la part de ses collègues de travail. Donc Max est un homme heureux aujourd'hui,
oui.
Capable de faire la circulation tel un homme de 25 ans aujourd'hui.
Oui, absolument. À date, je vois pas tant de différence.
Il y a rien qui a changé chez toi?
Hier matin, je l'ai... Ah, mais hier, j'étais encore à 24 ans.
Ouais.
Fait que je peux même pas...
Non, c'est ça.
Hey, ça va être quoi à 25 ans, Simonac?
Ouais. Ben, les problèmes vont commencer. Là.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment tough à la circulation, le secteur
Londres,
des ponts.
Les enfants.
Le secteur des ponts, c'est le bordel. 20 ouest à partir de chemin des îles Jamais.
Les taux hypothécaires.
20 est à partir de route Lagueux. 73 nord à partir de rue Beaulieu. Fait que tout ça, c'est Jamais, pont de Québec aussi. 40 est entre Duplessis et Henri IV au rouge. Un peu avant dans le coin de la courbe de Saint-Og au rouge aussi. Capitale est. Hauteur Robert Bourassa, c'est au ralenti. D'ailleurs, sur Robert Bourassa, direction sud, vers le boulevard Wilfrid Hamel, c'est ben jamais matin, ça c'est plutôt inhabituel. Capitale Ouest, bien au rouge, entre Seigneurial et Laurentienne. Laurentienne Sud, entre, je vous dirais, boulevard Louis XIV et Capitale, c'est au ralenti. Henri IV Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, au ralenti. Et direction Shannon, à partir de la route Léo-Major, un ralentissement se fait sentir.
David Chabot, expert en politique internationale, est avec nous. Salut David, content de te recevoir en ce mardi.
Salut copain.
Oui, 3 jours de congé, ça fait du bien?
Oui, parfait. Ça reste source.
L'actualité continuait en fin de semaine. J'ai vu d'ailleurs que Cuba est en train de faire une mise en garde aux États-Unis en disant que ça allait être un bain de sang si jamais les États-Unis voulaient prendre l'île de Cuba. 300 drones. Quand même assez impressionnant, qui ont été achetés par Cuba. Pas trop comment ils vont les faire voler, ces drones-là, ni même comment ils pensent être capables de faire virer leurs machines dans l'armée cubaine, parce que visiblement, ils ont un problème de pétrole. Là. Est-ce que c'est des menaces à prendre en considération quand Cuba décide de faire des menaces au gouvernement américain?
Mais pas vraiment. Je pense que c'est plus pour parler à leur population à l'intérieur du pays.
Ils sont en train de crever de faim, la population. C'est une tragédie, ce qui arrive là présentement.
Ouais, puis tu sais, la rhétorique de dire que c'est contre l'impérialisme américain qu'on va se défendre, puis on s'est doté des meilleurs drones, puis bon. 300 drones, là, on se comprend, c'est pas grand-chose. C'est ce que l'Iran envoyait à peu près à chaque jour. Là. Donc là, t'as une journée de frappe iranienne, mettons, à Cuba en ce moment. Le seul point qui est à leur avantage, ish, là, je dis ish parce que c'est pas si vrai que ça, c'est qu'ils sont proches de la Floride. Donc là, s'il y a une façon de lancer ces drones-là de façon plus incognito, on va dire, puis ça se rend jusqu'à Miami, par exemple. Imagine une frappe de drone à Miami où il y en a juste un qui tombe. Là. Ça pourrait être déjà quand même très symbolique. De là à parler d'un bain de sang, je pense que ça serait plus du sang cubain, malheureusement. Là, je ris, mais c'est pas drôle. Parce que, tu sais, ils ont zéro la capacité de résister à l'armée américaine de leur côté.
Mais ils ont-tu une réserve de pétrole à même l'île?
Ben, tu sais, l'armée a toujours, dans peu importe quel pays, là, à moins qu'ils soient vraiment, vraiment à coco.
Une réserve stratégique.
C'est ça, t'as pas le choix d'avoir un petit quelque chose sur le côté, tu sais, pour pouvoir, mais tu sais, on s'entend, 300 drones, c'est pas tant d'énergie nécessaire que ça. Puis, écoute. Et ça va, comme je te dis, ça va être une journée, puis ça va être fini si jamais ça va là. Donc là, mais j'y crois pas vraiment à une intervention armée d'un bord ou de l'autre. Je pense que c'est juste utiliser la rhétorique pour essayer de se placer dans le débat pour dire « Hey, salut, oublie pas, j'existe. » Parce que là, Cuba a eu des sanctions, puis plus personne n'en parle. Donc ils ont le pire des deux scénarios. Ils sont ignorés, puis ça fait mal. Fait que là, ils sont obligés de faire quelque chose, de brasser les cartes. Il y a la base de Guantanamo sur Cuba. La base elle-même n'est pas si stratégique que ça, outre le fait qu'il y a la prison de Guantanamo. Puis ça, c'est un gros panier de crabes parce que les prisonniers qui sont là, ils n'ont pas de statut judiciaire vraiment. Donc, c'est considéré comme des combattants, des non-combattants. Là, j'oublie le terme exact, mais c'est comment déjà? C'est des combattants non-militaires, un enfant comme ça. Ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas de statut. Fait que là, ils ne sont pas jugés aux États-Unis, ils ne sont pas dans leur propre pays d'origine parce qu'il y a beaucoup d'Afghans là-dedans puis probablement beaucoup du Moyen-Orient. Là, si tu fermes cette base-là, t'es comme pogné avec et tu sais pas quoi faire. Là. Donc là, si Cuba attaque Guantanamo, qui fait en sorte que ça devient assez hostile pour dire qu'il faut fermer la base, que je doute, là, C'est le seul levier que je vois là-dedans là, qui pourrait avoir un certain impact.
Il y a eu une rencontre dans les derniers jours là, entre des hauts responsables américains et des hauts responsables cubains. C'est la CIA qui était faire un tour sur l'île de Cuba pour rencontrer les hauts responsables. Puis tout s'est bien quand même bien déroulé. Y a-tu des choses qu'on ne sait pas?
Oui, tout le temps. Ça, à cette question-là, la réponse sera toujours oui.
Après ça, on va se faire traiter de conspi.
Mais tu sais, il y a certainement des négociations à quelque part pour pouvoir changer le régime. C'est ça l'intention américaine. Donc là, est-ce que le gouvernement Diaz est assez, comment dirais-je, altruiste pour dire qu'ils vont laisser tomber le pouvoir pour pouvoir rentrer quelque chose de plus favorable aux États-Unis puis arrêter les blocus? J'en doute, mais d'après moi, c'est ça les négociations en ce moment, de dire si tu changes pas le gouvernement, tu changes pas le type de gouvernance, puis là, forcément, tu deviens un gouvernement un peu marionnette pour les États-Unis, nous, on va frapper ou nous, on va faire des sanctions encore plus graves. D'après moi, c'est ça qui se discute en ce moment.
Est-ce qu'il pourrait faire, je dis ça comme ça, c'est jamais arrivé, il pourrait-tu faire disparaître un président?
Ben écoute, un accident si vite arrivé, hein, je veux dire, un petit bateau, un hélicoptère qui passe par là, mais... Tu sais, je pense que le concept de ce qui s'est passé au Venezuela est difficile à répéter. Tu sais, plus le temps passe, plus on prend du recul sur cette histoire-là. Tu sais, clairement, le gouvernement Maduro a patenté quelque chose pour que celui qui fly, puis ça s'arrête là. Parce que là, il n'y a rien eu d'autre au Venezuela. Tu sais, je suis pas là physiquement pour en juger, mais de ce que j'en comprends, c'est le même gouvernement avec une autre tête dirigeante. C'est les mêmes compagnies nationales pétrolières. Il n'y a pas plus de pétrole qui sort de là, puis il n'y a rien d'autre qui a changé dans l'économie. Là. Okay.
Pourquoi tout le monde abandonne Cuba? T'sais, la Russie s'en occupe pas. La Chine, Donald Trump était en Chine la semaine dernière. On n'a pas parlé de Cuba alors que c'était des alliés.
Là, ben, je dirais Taïwan, l'Ukraine,
ouais, ben, c'est
Cuba,
ça.
Venezuela.
Pas mal ça.
Il y a de la négociation. Là.
Ben, t'sais, on s'en parle depuis une couple de mois. Je vois le pays, pas le pays, mais le monde, en fait, divisé en trois. Là. On se le disait, l'Amérique, c'était à Trump, l'Europe, c'était à Poutine, puis le reste de l'Asie puis de l'Afrique, c'était à Xi. Fait que là... Pourquoi tout le monde s'en fout? Ben, premièrement, Cuba n'a pas beaucoup de ressources naturelles. C'est plate, mais il faut être froid dans notre analyse là-dedans. Il y a de l'exportation de canne à sucre, de rhum, de tabac, mais tu sais, c'est pas une puissance de ressources naturelles. Donc, c'est plus importateur qu'exportateur. Puis, d'un point de vue géostratégique, si tu es en confrontation directe avec les États-Unis, c'est le fun d'avoir une base là. C'est ce que l'URSS a fait longtemps. On se souvient de la crise des missiles, évidemment. Donc là, si le but, c'est de plus avoir de confrontation directe avec les États-Unis, Cuba devient totalement caduque et non nécessaire. Donc là, organise-toi avec tes troupes. Nous autres, de toute façon, on est pogné en Ukraine. On a les yeux sur Taïwan. On est en train de développer notre économie. Donc Cuba, regarde, organise-toi. Là. C'est plate, là, mais c'est pas mal comme ça que ça se passe en ce moment.
OK. Au Venezuela, on en parlait il y a de ça quelques mois avec Jeff et Max. Il y a des bateaux qui partaient du Venezuela qui étaient en direction, disons, du nord. Et l'équipe de Donald Trump et toute son armée pesaient sur un piton et détruisaient ce bateau-là. Il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas d'arrestation. C'est selon nos sources, selon nos renseignements, ce bateau-là qui s'en venait vers chez nous, il y avait de la drogue dedans. On appuie sur le piton puis on le fait sauter. Là, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un organisme, à même le Pentagone, qui a décidé d'enquêter sur ces bateaux qui se faisaient exploser.
Oui, parce que, tu sais, il faut savoir que dans l'armée américaine, il y a le JAG, là, que j'oublie l'acronyme exactement, qu'est-ce que ça veut dire, là, mais c'est des avocats, dans le fond, militaires, qui ont pour rôle, finalement, de défendre le droit international et ou le droit de la guerre, là, parce qu'évidemment, c'est encadré.
Judge Advocate General's Corp.
Exactement.
De l'armée américaine.
Bon. Fait que là, on se souvient de Tom Cruise là, dans le film là, où Jack Nicholson, il dit « Je veux la vérité, toute la vérité », puis il dit « Tu peux pas la tolérer ».
C'est le JAG.
Ben, c'est le JAG. Donc là, ces gens-là sont là pour défendre le droit international et le droit de la guerre. Ils sont comme à la fois alliés et hostiles au gouvernement. Là. Donc c'est un peu comme le bureau des enquêtes indépendantes de la police puis des choses comme ça. Je trouve ça quand même très significatif qu'il y ait une enquête ou du moins il y ait de l'intérêt sur ce sujet-là parce que, comprenons-nous bien, en temps de guerre, tu as le droit de frapper ce que tu veux. Mais là, il n'y a pas de guerre déclarée officiellement contre le Venezuela. Puis en plus, ils sont en eau internationale, ce qui change beaucoup la donne parce qu'en eau internationale, tu n'es pas censé te faire frapper sur la tête. Donc là, ce que le Pentagone fait en ce moment, c'est selon leur doctrine à eux, combattre le terrorisme, puis le narcotrafic est considéré comme du terrorisme. Là, rappelons-nous que le gouvernement Trump a qualifié les cartels d'organisations terroristes. Donc là, c'est sur cette prémisse-là qu'ils frappent. Mais le JAG, ce qu'ils vont faire, c'est d'aller voir s'il y a vraiment un fondement juridique là-dessus qui peut appuyer ces frappes-là. Est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Je pense pas qu'ils ont un pouvoir coercitif sur les orientations générales du Pentagone. Mais clairement, ils peuvent faire mal paraître Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la guerre, rappelons-le. C'est plus le secrétaire de la défense. Parce que cette stratégie-là part d'en haut. Là. Puis je pense qu'on peut tous être d'accord que faire la guerre au cartel, c'est pas une mauvaise affaire. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est un monde où, là, c'est pas seulement que les États-Unis, à la grandeur de la planète, on s'en fout un peu, finalement, du droit international, puis le droit humain, puis tout ça. On va aller vers nos intérêts.
Ce qu'on veut savoir, c'est qu'avant de peser sur le piton pour faire exploser le bateau, il y avait un cadre à respecter. C'est si ce cadre-là était respecté.
T'es censé avoir un jugement, un juge, là, qui à quelque part, regarde ton dossier puis dit « Non, t'as le droit de frapper parce que là, c'est justifié parce que c'est un criminel reconnu avec une enquête qui a de la preuve, nanana. » Là, il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment juste de dire que dans le cockpit, ils te disent « Il y a un bateau qui vient de partir de whatever, puis on le voit qui roule, puis je pense qu'il y a de la drogue là-dessus, fait qu'on frappe. » Je pense que c'est pas un niveau de preuve suffisant pour tirer un Hellfire sur la tête de quelqu'un. Donc là,
parce que ça pourrait être un propriétaire de bateau qui se fait kidnapper, puis il y a des narcotrafiquants qui embarquent le stock. Propriétaire de bateau, lui, il n'a pas demandé à se faire exploser. Là. Ouais. Donc, ça aurait été bien qu'il y ait une intervention américaine, puis qu'il y ait un procès pour tous ces gens-là, puis qu'on dise au propriétaire de bateau, « OK, toi, tu t'es fait kidnapper, t'es innocent. »
Dans un contexte où il n'y a pas de guerre ouverte officielle.
Exact.
Fait que là, tu sais, on le sait que... On le sait. Les gouvernements principaux, dont les États-Unis, vont toujours à essayer d'agir de façon un peu à la limite des lois, voire de façon illégale, mais que ça se dira pas. Pendant la guerre en Afghanistan et en Irak, il y avait des sites clandestins, là, des black sites en bon français, que la CIA opérait pour faire des interrogations qui étaient totalement contraires, dans le fond, au droit humain, là, avec le fameux waterboarding, c'était la version soft de ce qui se passait là. Donc, des choses comme ça, on peut en citer un million, là. Donc là, frapper un bateau qui roule dans la mer des Caraïbes, c'est peut-être pas ce qu'ils ont fait de pire. Mais ça reste que c'est très visible, puis ça en vente. C'est ça, en fait, c'est ça la grosse nuance là-dedans, c'est que c'est pas que ça arrive. C'est que ça arrive, puis qu'ils posent ça sur Twitter, puis qu'ils disent en se tapant le chest, « As-tu vu comment on est hot? » Puis ça dérange bien du monde, je pense, même à l'intérieur du gouvernement américain. Là.
Parfait. Et tu voulais nous parler de l'ouverture du nouveau pont Gordie Howe, qui est très, très attendu. Il me semble que ça a fait un bail, ça, qui était supposé être ouvert, ce pont-là.
Ben, il est prêt depuis environ 6 mois. Puis là, Donald Trump a fait la menace de dire « J'accepterai pas que tu l'ouvres », parce qu'évidemment, un pont qui relie deux pays, il faut que les deux soient d'accord. Puis il utilise ça avec plein d'autres choses, là, pour faire la pression sur le Canada.
Ça, c'est le fameux pont entre Windsor... en fait, il est à Windsor, ce pont-là?
Oui, entre Windsor et Détroit. Puis c'est un lieu d'échange économique extrêmement volumineux, disons, là, entre les deux pays. Il y a déjà deux ponts qui existent, là, j'oublie leur nom.
Le tunnel de Détroit-Windsor, puis tu as le tunnel, le pont Ambassadeur.
Exactement. Ouais. Sur le pont Ambassadeur, il y a du payage. Donc, il y a ça aussi là, qui vient en ligne de compte.
Mmh. Oui, fait que là, ce que le gouvernement américain, ben, en fait, Donald Trump personnellement, là, dit, c'est moi, le pont que le Canada a payé au complet, là, même avec tes taxes, Max, là, c'est le fédéral qui a payé pour ça. Le pont que le Canada a payé au complet, moi, je veux la moitié des actions, parce que là, il y a des revenus qui vont être liés à ça, puis je veux m'ingérer dans sa gestion, puis tout ça, alors que c'est 100% de nous autres qui l'a fait. Là, fait que là, ça que nous patience, mais en fait, oui, puis non, ça que nous patience, parce que ça va bénéficier aux deux pays, mais tu sais, ça devrait pas être vu négativement de créer un nouveau lien, un troisième lien, pour bonifier les échanges économiques entre deux pays. Mais là, dans la rhétorique, où ce que t'es rendu à mettre des tarifs, c'est les champignons frais, c'est là que ça dérape un peu. Là. Okay.
Mais là, est-ce qu'il va ouvrir ou pas?
Ben, appelle un 800 Washington, je te dirais, parce que c'est là que ça se passe. Là.
Fait que mais... même si ça fait à peu près 6 mois qu'il est prêt... Ça se peut qu'il soit bloqué à dernière minute.
Ouais, ben là, pour l'instant, il y a un gars qui passe le balai en sifflant, là, mais à un moment donné, ça va finir par ouvrir parce que la pression économique va être tellement forte. Y a du monde en sacrifice qui passe par là. Puis il y a déjà des échanges, là. On vient de le dire, il y a deux liens qui existent déjà qui fonctionnent, c'est juste qu'ils sont saturés à mort. Là. Donc là, ça a un coût économique, ça, le trafic, la congestion, puis encore une
fois. Surtout avec le coût du pétrole à l'heure actuelle.
En plus, effectivement, c'est un bon ajout, dans le fond, dans le débat. Fait qu'il faut qu'il se passe quelque chose parce que l'infrastructure, elle existe en ce moment. C'est pas comme un projet qu'on projette dans le futur, il est là. Fait qu'il va falloir l'utiliser.
David Chabot, ça a été un plaisir. On se reparle le lundi prochain, mon ami.
Merci, boys.
Bye-bye. Après la pause, Denis Gravel s'en vient pour le Pit Stop.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,